Voilà, bonjour à tous. Je me présente donc rapidement parce que j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire. En général, le Saint-Esprit, je le traite sur un long week-end, à moins qu'on veut continuer encore demain. Non. Je m'appelle donc Michel Viau, Wio pour les Belges, car je suis d'origine belge. Donc je viens actuellement de Lausanne, donc je suis pasteur donc de l'église de réveil de Lausanne. Je ne suis pas trop dépaysé lorsque je viens à Genève, puisque j'étais quand même plus ou moins 10 ans aux côtés du pasteur Walter Zanzen, donc l'église de réveil de Genève. J'étais aussi pasteur là, à ses côtés, avec aussi Luc Haussmann, si vous connaissez. Et j'étais donc essentiellement responsable de la jeunesse à Genève, aussi président du comité interjeune pendant plusieurs années. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici aussi et de revoir un peu, même si quand on est arrivé, on a vu que c'était encore le canton de Vaud. Hein. C'est pas tout à fait Genève, hein. Donc on n'est pas trop dépaysé. Hein. Voilà, donc je suis marié avec la plus jolie des femmes, Karine. J'ai 3 enfants qui me ressemblent tous. Non, c'est pas vrai. Et puis donc, j'ai un certain âge. Voilà. J'ai 42 ans. Je viens d'avoir 42 ans. Voilà. C'est encore un jeune pasteur, ça? Ouais. Quand on est chez les jeunes, ouais. Bon, chez les jeunes, je suis déjà vieux, hein, donc. Mais ok, tant mieux. Alors, ce matin, donc, sans plus tarder, nous allons aborder donc le thème du Saint-Esprit. Et nous allons donc essayer de comprendre finalement qu'est-ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il parle du Saint-Esprit, lorsqu'il le présente vraiment aux disciples, lorsqu'il l'introduit aussi à plusieurs reprises à la foule. Et on va pas aller plus loin pour aujourd'hui. On va essayer de réfléchir déjà à ces quelques questions qui sont pour moi importantes afin de saisir et de comprendre vraiment qui est le Saint-Esprit, pourquoi il est à ce point important dans une vie et pourquoi on doit aussi apprendre à dépendre de lui. Vous savez, la Bible parle de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit, de prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit, si vous faites attention, est partout dans la Bible, partout. Tout dans chaque épître, on fait mention probablement de lui. Il est là, il est présent. D'ailleurs, c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, il est là, il est présent. Et ce matin encore, il est là. Et nous devons apprendre à dépendre de lui. Je me rappelle, il y a de longues années déjà en arrière, ça faisait une année que j'avais donné mon cœur à Jésus. J'étais dans une recherche vraiment d'un baptême du Saint-Esprit, d'une puissance. On m'avait dit que maintenant tu es converti, tu peux rechercher Dieu a une puissance pour toi. Dieu veut enflammer ton cœur, selon Actes chapitre 2. Et je me rappelle avoir cherché cette présence de tout mon cœur. Et lors d'un camp en Angleterre, le Seigneur va me rencontrer d'une manière nouvelle. Et ce sera Actes chapitre 2 en Angleterre. C'était quelque chose d'extrêmement fort et une expérience que j'oublierai jamais. Mais le baptême du Saint-Esprit, même si c'est pas forcément mon sujet principal aujourd'hui, n'est pas juste une expérience. Mais c'est une entrée. Nous entrons dans quelque chose de nouveau. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Dieu nous remplit de son esprit pour que nous puissions vivre avec lui, progresser avec lui et avoir un impact autour de nous. Mais donc, une première question que j'aimerais vous poser maintenant, parlant du Saint-Esprit, c'est qui est le Saint-Esprit rapidement? Et ma réponse sera simple ce matin. Nous devons bien comprendre, à mon avis, dans un premier point, que le Saint-Esprit est une personne. Une personne, mais pas n'importe quelle personne. C'est vrai qu'il y a souvent ces images du feu, hein, de l'eau, du vent, et ce sont des images. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se manifeste, il se manifeste souvent comme un feu, comme un vent, comme de l'eau, comme des fleuves. Mais le Saint-Esprit reste une personne. Il est avant tout une personne, mais pas n'importe quelle personne. Le Saint-Esprit, en réalité, en vérité, est aujourd'hui sur la terre, aujourd'hui sur la terre, parmi nous, il devait et il devrait être pour chacun d'entre nous la personne la plus importante. Jésus aujourd'hui n'est plus sur la terre. Jésus est dans le ciel avec le Père. Et nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1. D'ailleurs, c'était le jeudi de l'Ascension. Jésus est monté dans la gloire du Père. Et Jésus n'est plus physiquement sur cette terre. Mais qu'a dit Jésus ? Jésus a dit dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, alors qu'il est sur la fin de sa vie, il est de son ministère terrestre, pardon, il dira, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Et un peu plus loin, il dira, « Et il sera en vous. » Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Je vais vous envoyer un président qui pourra vous diriger, ou je vais vous envoyer un homme qualifié du monde de la politique qui pourra vous diriger. » Il n'a pas dit « Je vais vous envoyer un grand rabbin qui va vous enseigner. » Il n'a pas dit non plus « Je vais vous envoyer un grand philosophe qui va vous aider à réfléchir au sens de la vie. » Il n'a pas dit non plus à ses disciples « Je vais vous donner une épouse pour que vous puissiez fonder une famille et de cette manière avoir un impact. » Jésus n'a pas dit ces choses-là parce que les disciples n'avaient pas besoin de cela. Aussi importantes que puissent être certaines de ces choses, à ce moment-là, les disciples avaient besoin d'autre chose pour continuer dans les traces de Jésus. Ils avaient besoin d'une personne qui allait les aider à pouvoir accomplir les œuvres du Père, suivre les traces de Jésus, entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Ils avaient besoin non pas d'un autre rabbin, non pas d'un grand président, non pas même d'une épouse à ce moment-là. Ils avaient besoin en priorité la personne du Saint-Esprit, la présence de Dieu, car lui seul pouvait les amener à entrer dans cette dimension dans laquelle Dieu voulait les emmener. Et Jésus donc dit, je prierai le Père pour que vous receviez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donc la personne dont ils avaient besoin en priorité. Ce qui fait du Saint-Esprit la personne sur terre aujourd'hui, pour chaque homme, pour chaque femme, la personne la plus importante pour l'homme. La personne donc aujourd'hui la plus importante sur terre n'est pas le président des États-Unis. Ce n'est pas ton acteur ou ton chanteur préféré. La personne aujourd'hui la plus importante sur terre n'est pas ton époux ou ton épouse ou tes enfants. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes encore aujourd'hui et encore pas plus tard que vendredi, je rencontrais une jeune qui est désespérément désespérée parce que elle voit autour d'elle tous des jeunes qui se mettent en couple et puis elle vient vers moi, « Moi aussi, je veux trouver quelqu'un !» Et encore, elle me disait, mais je veux trouver quelqu'un, tout le monde se met en couple et pas moi. Mais je lui ai dit, et que fais-tu de Dieu? L'as-tu mis en priorité? Est-ce que tu es en train de bâtir sur lui? Ensuite, tu penseras à ces choses-là. Dieu te conduira dans ces choses-là. Mais fais les choses dans l'ordre. Elle me disait, oui, mais. C'est vrai ce que tu dis, mais. Toujours ce petit mais, hein, qui casse tout. Et elle l'entendait, mais au fond de son cœur, elle n'arrivait pas à recevoir ses paroles. Et aujourd'hui, nous devons bien prendre conscience que, oui, Dieu doit être en priorité. Le Saint-Esprit doit reprendre sa place dans nos vies, en premier, en priorité. Souvent, dans nos esprits, le Saint-Esprit est le petit dernier de la Trinité. Il est le petit dernier qui vient en troisième position. Il y a le Père, ensuite le Fils, ensuite vient le petit dernier, le Saint-Esprit. Mais est-ce que l'un est supérieur à l'autre ou l'un inférieur à l'autre? Non, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a donc pas un petit dernier, il y a seulement un Dieu en trois personnes. Et nous devons commencer à nous, même parfois, nous obliger et à demander à Dieu de l'aide pour que nous puissions avoir la bonne vision de qui est le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est intéressant à relever, et lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il en parle souvent comme une promesse. Il dira par exemple à ses disciples dans Luc 24, verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'est-ce qu'une promesse ? Une promesse, c'est l'engagement que l'on prend pour accomplir ce qu'on a dit. Donc pour qu'il y ait une promesse, il doit y avoir quelque chose qui soit dite. Il doit y avoir une parole qui soit prononcée, quelque chose qu'on dit. Et la promesse, c'est l'engagement que l'on prend pour accomplir ce qu'on a dit. Le verbe donc promettre signifie s'engager à accomplir ce qu'on a dit. Lorsque donc Dieu promet quelque chose à l'homme, il est en train de s'engager à accomplir tout simplement ce qu'il a dit. Et nous savons, d'après le prophète Jérémie, au verset 10, 12 du chapitre 1, Dieu a dit « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Ou encore dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ». Il y a dans ce livre qui est la parole de Dieu une multitude de promesses pour nous. Par exemple, pour en citer quelques-unes, Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le psaume 34, verset 6. Dieu promet de nous délivrer de tout danger. Et si nous crions à lui de tout notre, cœur, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le psaume 18, verset 20, 30. Dieu dit, il est un bouclier. Dieu dit, je suis un bouclier pour tous ceux qui se confient en moi, en lui. Le psaume 25, verset 9. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il promet de nous diriger et de nous conduire sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Dans le psaume 23, verset 1. Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, il promet de nous sauver et de nous purifier de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu promet de nous guérir. Il en a la puissance. Ésaïe 53 verset 5, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce sont toutes des promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que donc une promesse ? C'est l'engagement que l'on prend pour accomplir ce qu'on a dit. Voici maintenant Jésus qui est avec ses disciples. Et alors qu'il est donc, comme je l'ai déjà dit, à la fin de son ministère terrestre, il va leur redonner donc une promesse. Il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis ». Dans l'évangile de Luc, un jour, Jésus se retrouvera parmi une foule comme à son habitude et il va s'adresser essentiellement ce jour-là à tous ceux qui étaient des pères, des papas. Et il dira à ses pères, « Lorsque votre enfant, votre fils vient vers vous et qu'il a faim et vous dit « Papa, papa, j'ai faim, n'as-tu pas du pain ?» Jésus va dire à ses pères, « Si votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre ?» Et s'il vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion, et ainsi de suite. Et la conclusion de Jésus sera celle-ci. Vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Luc 11, 11. Le Saint-Esprit ici fait référence non seulement à la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous, mais aussi avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire toutes les merveilleuses promesses que Dieu a prévues pour nous par son esprit. Et Jésus met en évidence ici que Dieu est un Dieu bon. Et un Dieu bon a de bonnes choses pour nous, pour ses enfants. Jésus désire donner aussi à la foule l'assurance que si un homme, une femme, cherche Dieu de tout son cœur, Dieu sera toujours là, toujours prêt pour se manifester et agir envers cette personne, mais il le fera par son esprit. Jésus le promet, c'est une promesse. Dieu est avec nous par son esprit et il veut encore le répandre sur nous. Il veut encore le répandre sur beaucoup d'hommes et de femmes. Il veut le répandre sur votre famille qui ne croit pas encore en Dieu. Il veut le répandre sur cette région de Versoix, de Genève. Il veut le répandre encore. C'est une promesse. C'est encore le temps de la grâce, le temps où Dieu veut répandre son esprit. Maintenant, écoutez-moi bien. Selon cette promesse, Dieu donc veut être avec nous par son esprit. Et la Pentecôte représente donc pour nous désormais ce jour où Dieu a accompli sa promesse envers premièrement les disciples, en venant vers eux donc par son esprit. Mais la Pentecôte, ça ne représente pas seulement la venue du Saint-Esprit vers les disciples d'autrefois, ça représente désormais la venue du Saint-Esprit vers quiconque croit en Jésus, se repent de ses péchés et cherche Dieu de tout son cœur. Désormais, grâce à ce jour de Pentecôte, nous savons que si nous recherchons Dieu de tout notre cœur, et si vraiment on se repent de tous nos péchés, nous savons, parce qu'il y a eu ce jour de la Pentecôte, que désormais plus rien ne peut empêcher au Saint-Esprit de venir vers un homme, une femme qui le cherche avec une véritable soif dans son cœur. L'apôtre Pierre dira dans Actes chapitre 2. Je le prends rapidement. Actes chapitre 2, verset 38. Il dira ceci. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il venait de vivre la Pentecôte. Et maintenant il dit, « Vous aussi, vous pouvez vivre la Pentecôte. Si vous demandez pardon à Dieu, si vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, alors vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. » Il dit au verset 39, « Car la promesse, de nouveau le mot promesse, et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La Pentecôte, ce n'était pas juste pour 120 personnes dans une chambre haute. La chambre haute, la Pentecôte, c'est pour chacun encore aujourd'hui. C'est pour toi, c'est pour moi, mon frère et ma sœur. C'est pour tes enfants. Et tu dois, en tant qu'Église, nous devons aussi aspirer à ça et prier pour que, de nouveau, nous puissions vivre cette Pentecôte. Pour que nos familles vivent cette Pentecôte, nos villes vivent la Pentecôte. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Dieu veut être avec nous par son esprit. Reprenons cette parole de l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 16 et 17. Et je le lis. Je relis. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. » Jésus dit ici quelque chose de très intéressant. Jésus dit donc, je vais prier le Père pour que le Saint-Esprit vous soit envoyé. Et en parlant du Saint-Esprit, Jésus dit qu'il est un autre consolateur. Il est un autre consolateur. Dans le texte original, un autre consolateur, ce sont les mots alos parakletos. Et le mot parakletos signifie celui qui se tient à côté d'eux. Et Jésus était un parakletos pour ses disciples. Jésus s'est tenu à côté de ses disciples pour les appeler, les enseigner, les encourager, les former, les reprendre des fois, les protéger, prendre leur défense, combattre. Il a combattu avec eux dans la prière, les consoler, les diriger. Et Jésus dit maintenant, le Saint-Esprit est aussi un paraclétos. Et il sera un paraclétos à vos côtés. Le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit un autre. Mais il est un autre qui va faire comme Jésus. Ou sinon Jésus aurait dit hétéros, mais il dit allos, parce que c'est un autre comme Jésus. Il va aussi enseigner, encourager, former, reprendre, protéger, défendre, combattre dans la prière avec nous et pour nous, consoler et diriger. Et en parlant de cet autre consolateur, Jésus dit qu'il sera avec nous, mais il sera aussi en nous. Mais là où cela devient intéressant pour nous, c'est quand Jésus nous dit de quelle manière le Saint-Esprit veut être avec nous. Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit désire être avec nous? Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit veut habiter au milieu de son peuple? Savez-vous de quelle manière le Saint-Esprit veut demeurer au milieu de son peuple ici à Versoix? Voici ce que Jésus dit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce petit mot, éternellement, ou plutôt ce grand mot, est très important. Un jour, il y a plusieurs années en arrière, alors que j'étais en train de méditer ce verset, ce grand mot, éternellement, m'a frappé. Et je crois que c'était véritablement le Saint-Esprit, Dieu, qui est en train de m'interpeller, qui voulait attirer mon attention sur ce mot éternellement. Alors, j'ai fait des recherches sur ce mot. Je suis allé voir sur Internet, j'étais voir dans le grec, j'ai fouillé et j'ai fait une grande découverte incroyable. J'ai découvert que ce mot éternellement voulait dire exactement ce qu'il voulait dire. Éternellement. Waouh ! Éternellement. Mais pour moi, ce fut une révélation. Car j'ai compris quelque chose dans ce passage que je n'avais pas saisi auparavant. Soudainement, j'ai pris conscience que le Saint-Esprit nous est envoyé, non pas pour rester un peu de temps avec nous, pour faire ce qu'il doit faire par-ci et par-là, mettre un peu d'ordre dans nos vies par-ci, par-là, nous dire deux, trois choses et ensuite repartir et nous laisser vivre comme par le passé. Non, lorsqu'il vient, c'est pour rester avec nous. Et il veut rester avec nous éternellement. Donc une fois qu'il vient, tu ne peux plus t'en débarrasser. Il vient pour rester. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que lorsque le Saint-Esprit vient dans une vie, il ne vient jamais dans cette vie juste pour la visiter. Faire ce qu'il faut faire. Mettre un peu d'ordre. Ensuite repartir. Si le Saint-Esprit agissait de cette manière, cela signifierait qu'il vient pour être un simple visiteur, n'ayant pas une grande autorité sur ma vie. Si le Saint-Esprit agissait de cette manière, il ne pourrait pas faire grand-chose pour moi, grand-chose pour mon Église sur le long terme. Il vient, il me donne deux, trois conseils, après il repart, et puis il dit « débrouille-toi ». Admettons que je sois invité chez vous ce midi. Admettons. Donc après ce culte, vous allez vite partir chez vous pour vite vous assurer qu'il n'y a pas trop de poussière, tout est bien rangé, ça va, le poulet il est en train de cuire, mais ça va bientôt être cuit. Voilà, vous rentrez vite chez vous parce que vous savez que bientôt le pasteur de Lausanne va arriver. Hein ? On peut même pas dire chez vous au doigt parce que je ne le suis pas, mais voilà. Et donc, une fois après le culte, je pars pour me rendre chez vous. Une fois arrivé près de votre porte, qu'est-ce que je fais? Ben, je sonne. Et j'attends que vous veniez ouvrir la porte. Je ne vais pas ouvrir la porte et entrer. Non, j'attends, je sonne et j'attends que vous ouvrez la porte. Une fois que la porte est ouverte, qu'allez-vous faire? Ben, vous allez je l'espère, m'inviter à entrer chez vous. Ensuite, que vais-je faire? Mais je vais enlever ma veste parce qu'il fait un peu chaud. Sauf si j'en ai pas depuis le départ. Et vous allez, et je vais attendre que vous me donniez les prochaines instructions. Où est-ce que je peux poser ma veste? Vous allez me le dire. Où est-ce que je peux m'asseoir? Vous allez me le dire. Dans la cuisine ou le salon? Qu'est-ce que je peux boire? Ça, c'est encore vous qui allez me le dire. Qu'est-ce qu'on va manger? Ça, c'est vous qui allez me le dire. Je vais donc me comporter comme un visiteur et un invité. Et en tant que visiteur et invité, je ne peux pas faire ce qu'il me plaît chez vous. Je ne vais pas commencer à entrer dans votre cuisine sans vous demander ouvrir votre frigo et me servir. Ah, oh, il y a du beau fromage là, ils sont un peu, mais c'est pas grave, allez, on le prend. Ah, oh, vous avez ceci à... Ok, on prend. Après, je vais aller dans votre chambre à coucher et je vais commencer à fouiller. Ah, oh, vaut mieux pas, hein. Je risque de découvrir des choses. Non, je ne vais pas faire ce genre de choses parce que je ne suis pas chez moi. Et ce n'est pas en général ce qu'une personne en visite fait. Lorsqu'on sera à table, je vais accepter de manger ce que vous allez me donner, même si j'aime pas trop. Je vais faire un effort de manger avec le sourire. Et après avoir mangé, après avoir pris le dessert et le café, après avoir échangé poliment, c'est en général à ce moment-là que les invités, mais aussi ceux qui ont invité, se posent la même question intérieurement. Quand est-ce qu'ils vont partir? Ah. Une personne en visite sait qu'elle ne va pas rester parce qu'elle n'est pas chez elle. Et une personne qui est invitée chez, qui ne va pas rester parce qu'ils ne sont pas chez lui. Elle est juste en visite. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit ne vient pas comme un visiteur. Comment vient-il? Il vient pour rester éternellement avec nous et en nous. Il vient donc pour être le chef de la maison. Il vient comme le propriétaire de la maison. Il vient pour être Dieu dans ma maison. Si Dieu vient comme le propriétaire de ma maison, lorsqu'il entre dans ma maison, il n'a plus besoin de repartir. Parce que la maison lui appartient. S'il vient comme le propriétaire, il vient et il peut rester éternellement. Non seulement la maison lui appartient, mais il a le droit de faire ce qu'il veut dans la maison et avec la maison. Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire. Et ce petit mot éternellement nous indique que le Saint-Esprit ne vient jamais dans une vie ou même au milieu d'une église juste pour rester dans un coin silencieusement, n'accomplissant rien. Ou simplement ce que je lui ordonne de faire. Ce n'est pas de cette manière que le Saint-Esprit veut venir dans une vie. Ce n'est pas de cette manière que nous devons accueillir le Saint-Esprit au milieu de nous. Il veut venir dans ma vie pour que les choses changent, pour que les choses bougent, pour que la vie de Dieu jaillisse de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà ce qu'implique ce petit mot éternellement. Laissez-moi vous raconter rapidement un petit témoignage. En février 2016, c'est encore récent, j'étais donc encore à ce moment-là, février 2016, j'étais encore pasteur de l'église, un des pasteurs de l'église de réveil à Genève. Je vivais mes tout derniers moments. Et j'étais donc, entre autres, le pasteur aussi, le pasteur jeunesse. Je m'occupais donc, ce groupe de jeunes existe encore, Impact Jeunes, il existe encore. Et à mon époque, donc, enfin mon époque, il y a deux ans, c'était un groupe de jeunes qui était entre 50 et 70 jeunes tous les vendredis soirs. Je pense qu'ils sont toujours à peu près la même chose. Et en mars 2016, j'ai quitté donc Genève pour rejoindre l'église de réveil de Lausanne, donc qui est en face de la place de la Riponne. Et je me rappellerai donc toujours de ce premier culte de mars 2016. Alors que je suis arrivé dans ce premier culte, les gens, bien sûr, sont contents que je sois là. « Oh, il y a un jeune pasteur qui est là, c'est bien, ils ont voté pour moi, 100%. » C'était, voilà, vous avez soif qu'il y ait un nouveau pasteur qui vienne, un jeune pasteur. Et moi, j'étais aussi très heureux d'être là. On sentait que c'était vraiment un changement. C'était le temps de Dieu pour moi de changer, de passer à autre chose. Mais donc je viens de quitter un contexte de jeunes, 70 jeunes, encore si on passe en décembre 2015, à Noël, on était plus de 120 jeunes lors d'une fête de Noël, et j'étais dans ce contexte-là. Puis j'arrive maintenant dans cette église de Lausanne, dimanche matin. Puis je suis un peu dans le fond, je regarde, j'observe un peu l'audience qui est là. Et la première question que je me suis posée, c'est: où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Il n'y en avait que deux. Deux de 16 ans. Quand je parle des jeunes, je parle des jeunes adultes. Il n'y en avait que deux. Deux qui avaient à cette époque-là 16 ans, 16 et 17 ans. Où sont les autres? Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à dire, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que Dieu voulait? Mais j'ai aussi pris conscience d'une chose. J'ai pris conscience que si j'étais là, c'est parce que Dieu m'avait appelé. Et j'aimerais vous dire, n'allez jamais quelque part si Dieu ne vous appelle pas là. Allez là où Dieu vous appelle. Parce que si Dieu vous appelle pas, vous n'aurez pas la force, le courage d'aller jusqu'au bout. Et au moment où je suis arrivé là et que j'ai vu ce gros défi, je me suis dit, Seigneur, tu m'as appelé, alors j'aurai la force d'aller jusqu'au bout. Seulement deux jeunes. Et j'ai voulu faire prendre conscience à l'église qu'il y avait un problème, si j'ose dire le mot problème, et qu'il faut faire face à ce problème, parce que pour moi, ma vision de l'église, c'est jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et donc j'ai fait des statistiques. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui étaient là. Mais j'ai fait des statistiques. Et l'Assemblée générale, je suis venu avec ces statistiques. Et je leur ai montré, d'après mes statistiques, j'avais les dates de naissance de tout le monde, que 80% de l'église, c'était à peu près les plus de 50 ans. Et dans ces 80%, 50% de l'église, c'était les plus de 65 ans. Il restait 20%, c'était quelques enfants, deux jeunes de 16 ans, 16-17 ans, et quelques personnes entre 13, entre 30 et 45. Et j'en faisais partie. Et je leur ai montré. C'était pas pour les accuser, mais c'était pour qu'ils prennent conscience. On va prendre conscience. Un peu comme le prophète Ézéchiel qui est dans cette vallée d'ossements desséchés. Avant de voir le miracle, il a dû prendre conscience qu'il était dans une vallée d'ossements desséchés. Il devait prendre conscience qu'il avait un problème, que ses ossements avaient besoin de la puissance de Dieu. Il fallait prendre conscience de cela. Alors je leur ai montré. Puis je leur ai dit, moi, je vais m'impliquer pendant un temps au niveau de la jeunesse, mais j'étais pasteur de l'église. Et c'est vrai que j'ai pu compter mes heures à ce moment-là. Mais j'ai commencé à prendre ces deux jeunes tous les mercredis, un mercredi sur deux plutôt. Pendant 6 mois, j'ai pris ces deux jeunes avec moi, tous les soirs, et je leur prêchais que Dieu est grand. Je leur prêchais que Dieu va faire des grandes choses. Je leur prêchais que le Saint-Esprit va agir. Je les invitais à ouvrir leur vie. J'ai prié pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je leur ai prêché sans cesse la vision d'un Dieu grand, d'un Dieu qui veut sauver des jeunes, d'un Dieu qui va faire des grands. Et je prêchais sans cesse cela à deux jeunes. Dieu est grand, Dieu est puissant. Soyons remplis du Saint-Esprit. Prions, croyons. Je les motivais comme si je parlais à 2000 personnes. Deux jeunes qui me regardaient comme ça. Au bout de 6 mois, deux autres jeunes vont arriver. Et pas des jeunes de notre église, voilà. Deux jeunes qui se convertissent, qui viennent d'une famille non chrétienne, deux jeunes qui viennent. Ça fait quatre. Wow. Ils sont encouragés. On continue de prêcher, on prie pour eux. Ah, deux autres jeunes qui viennent. Ah, ça fait six. On continue de prier pour eux. On impose les mains, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont motivés, ils ramènent d'autres personnes. Et on passe à 10. Jeunes, on continue de prier, on prie pour eux, ils sont remplis du Saint-Esprit, on prêche la vision. Oh, 15 jeunes. Et ainsi de suite, vendredi, on était 25 jeunes. 25 jeunes. On a un groupe de jeunes maintenant, on a un groupe de louanges, on a une équipe d'accueil. 25 jeunes maintenant. Bon, même s'il y a eu quelques jeunes qui sont aussi venus de Genève, mais tout s'est arrangé, il y a 2-3 jeunes. Mais la majorité de ces jeunes sont des jeunes qui viennent d'une famille non chrétienne. Que Dieu a touché. On a prié pour eux, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. On a prié pour qu'ils fassent une rencontre. Et ils ont été visités. Et puis, ils ramènent d'autres personnes. Puis, Lausanne, vous savez, il y en a des jeunes. Hein, c'est une ville où on fait la fête là-bas. Quel est le secret? J'ai découvert que le secret était un, la prière. Deux, donner toute la place au Saint-Esprit. Trois, être consacré à la parole de Dieu. Quatre, avoir une vision de Dieu claire et tout mettre en œuvre pour l'accomplir. Cinq, bien s'entourer d'hommes et de femmes fidèles et loyaux. Et vous mettez déjà ça en place et vous allez voir des choses bouger. Mais commencez par le début, la prière. Et Saint-Esprit, je te donne toute la place. Saint-Esprit, viens. Je sais que moi, par moi-même, j'y arriverai pas. Vous devez être suffisamment humble pour reconnaître que tout votre argent, que votre formation, toute votre capacité ne pourra pas amener de véritables changements. Que vous avez besoin du Saint-Esprit pour amener le véritable changement, pour entrer dans les œuvres de Dieu. Vous avez besoin premièrement de la présence du Saint-Esprit qui vous dirige. Et là, vous allez voir les choses bouger. Je voudrais terminer, je voudrais conclure par une dernière petite parabole. Peut-être que vous connaissez cette parabole, mais je termine par cela. Un jour, un homme hérita d'une grande maison, 6 pièces en haut et 6 pièces en bas. Il était heureux d'habiter dans cette maison. Il avait une clé pour chaque porte. Et il se disait, je suis le roi de la maison. Quelques jours passèrent et quelqu'un sonna à la porte. Il ouvrit la porte et il fut surpris lorsqu'il découvrit la personne qui était juste en face de lui. C'était Jésus. Alors il dit, « Oui Jésus, j'ai crié à toi, tu peux venir maintenant, entre dans ma maison. » Et Jésus entra dans sa maison. Alors l'homme dit à Jésus, « Ok Jésus, maintenant tu es dans ma maison, tu peux aller en haut et prendre une pièce que tu désires. » Entre dans une pièce et puis fais ce qui te veut dans cette pièce-là. Jésus ne dit rien, le regarda et monta et prit une pièce. Quelques jours passèrent et quelqu'un de nouveau sonna à la porte. L'homme alla, ouvrit la porte et il fut soudainement surpris lorsqu'il vit qui était juste là. C'était le diable. Et le diable chercha à entrer, mais l'homme dit « Non, tu n'es pas bienvenu dans cette maison !» Et il le repoussa, le diable chercha à entrer, mais le repoussa, et il eut un combat, et enfin il réussit à le faire sortir de la maison. Il ferma la porte, il était épuisé, et là, alors qu'il réfléchit, il se dit « Mais il y a Jésus qui était là, pourquoi il n'a rien fait ?» Alors il se mit à crier « Jésus, Jésus, Jésus !» Jésus descendit et il dit « Mais Jésus, tu es dans la maison et tu n'as rien fait pour moi, pourquoi ?» Jésus lui répondit « Mais mon ami, je suis ici seulement ton invité. » Jésus remonta. L'homme ne comprit pas ce que Jésus cherchait à lui dire et la vie reprit son cours. Quelques jours plus tard, de nouveau la porte sonne. C'était de nouveau le diable. Il chercha de nouveau à entrer et de nouveau il eut un combat. Un combat terrible, encore plus fort que le précédent, mais il réussit encore à le repousser. Épuisé de nouveau, il cria à Jésus. Jésus de nouveau vint. Il dit « Mais Jésus, pourquoi m'as-tu pas aidé ? J'étais à deux doigts de le laisser entrer. » Jésus dit « Mais mon enfant, je suis ici seulement ton invité. » Il comprit toujours pas. Alors, de nouveau, il partit, et puis de nouveau, la porte, on sonna à la porte. C'était encore le diable. Et là, ce fut un combat qui dura de longues heures. Et avec un dernier effort, il réussit à pousser le diable. De nouveau, il cria à Jésus, et Jésus descendit, et de nouveau, la même chose. Mais là, il comprit cette fois-ci. Il comprit. Alors l'homme se releva, mit sa main dans sa poche et retira un trousseau de clés. Et dit Jésus, voici les clés de la maison. Voici les clés de ma maison. Désormais, tu ne seras pas juste mon invité, mais tu seras le roi de cette maison. Tu seras le propriétaire de cette maison. Prends les clés, je suis ton serviteur. Quelques temps passèrent et on sonna à nouveau à la porte. Une porte s'ouvrit en haut. On entendit des pas. Ces pas arrivèrent près de l'escalier et les escaliers résonnèrent. Et d'un pas décidé, cette personne alla jusqu'à la porte, ouvrit la porte, et le diable, prêt à sauter dans la maison, s'arrêta net et s'enfuit rapidement, car il vit que c'était Jésus. C'était Jésus qui ouvrit maintenant la porte. C'est Jésus qui avait les clés. C'est Jésus qui était maintenant le propriétaire de la maison. C'est Jésus maintenant qui soutenait l'homme et qui a pris son combat entre ses mains. Mes amis, as-tu remis toutes les clés de ta vie à Jésus? As-tu invité le Saint-Esprit juste comme un simple invité, ou l'as-tu invité pour être le roi de ta vie? Chers amis, est-ce que le Saint-Esprit a le droit de juste visiter quelques pièces de votre maison, quelques coins de votre cœur, ou a-t-il le droit de visiter et de dire ce qu'il pense sur chaque domaine de votre vie? Le domaine financier, le domaine émotionnel, le domaine relationnel, le domaine professionnel, l'as-tu laissé le droit de dire ce qu'il pense et d'agir dans chaque domaine de ta vie? Ou seulement lorsque tu es dans l'église, ok, tu peux parler et je ferai semblant d'écouter. Une fois que je suis chez moi, tu ne me parles pas, je fais ce que je veux. Est-ce qu'on peut se poser cette question ce matin? Est-ce qu'on est d'accord d'inviter le Saint-Esprit ce matin? Et de vraiment dire, Seigneur Jésus, je vous invite à prier un instant. Je vous invite juste à dire, Seigneur Jésus, maintenant, nous nous plaçons devant toi. Et nous voulons t'accueillir, Saint-Esprit, non pas comme un simple invité, mais comme celui qui a toute autorité. Jésus, il est vrai, est remonté dans la gloire, mais nous savons que Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Et lorsque nous accueillons le Saint-Esprit dans nos vies, c'est Jésus que nous accueillons dans nos vies. C'est Jésus le roi. Et Jésus veut être le roi de ta vie. Et quand je dis de ta vie, c'est de chaque domaine de ta vie. Oui, un jour, tu as peut-être donné ta vie à Jésus, et c'est pour ça que tu es là ce matin. Mais vraiment, le laisses-tu vraiment régner sur chaque domaine de ta vie? Peut-être il y a une clé ou une deuxième clé que tu gardes pour toi. Seigneur Jésus, je voudrais te déposer. Je voudrais te déposer toutes les clés de ma vie. C'est-à-dire que je te remets l'autorité que j'ai pris pour moi. Je veux te la rendre, Seigneur Jésus, et te laisser toi exercer l'autorité que tu veux et recevoir l'autorité qui vient de toi. Seigneur Jésus, agis maintenant. Ô Saint-Esprit, accueillons-le juste le quelques secondes maintenant dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je veux prier pour chaque personne dans cette salle. Seigneur Jésus, il y a quelqu'un ici qui vit des difficultés au niveau professionnel. Tu vis des moments difficiles. Tu entends ce que je dis là et tu dis, mais oui, mais moi je vis des choses tellement dures. J'ai l'impression que des fois, tu vois, il n'est pas là. J'ai besoin de lui là dans le domaine professionnel. Seigneur Jésus, je veux te prier pour que tu puisses te manifester pleinement dans la vie de chacun et essentiellement dans la vie peut-être de ceux qui vivent des défis particuliers au niveau professionnel. Viens, Saint-Esprit, maintenant te révéler à eux. Alors qu'on t'ouvre tout notre cœur tout grand ouvert et qu'on te fait confiance, Seigneur Jésus, viens déposer dans le cœur de chacun cette assurance que tu es là et que tu seras avec nous et que tu vas prendre, Seigneur Jésus, ce combat entre tes mains et que tu vas combattre avec nous et pour nous. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Tu as aussi des soucis au niveau de ton couple. Au niveau relationnel, invite aussi le Seigneur dans ce domaine en particulier. Au niveau relationnel, Seigneur Jésus, je te fais confiance. Mon mari peut-être ne croit pas en Dieu, alors fais-lui confiance au Seigneur. Et puis, prends cette résolution de prier et demande à Dieu qu'il te donne de l'amour. Un amour qui vient du ciel, un amour qui vient du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, viens nous aider aussi, Père éternel, dans l'aspect relationnel. Seigneur Jésus, émotionnel, touche, Seigneur Jésus, affectif, viens, Saint-Esprit, aide-nous, Jésus, à pouvoir être aussi un témoignage au niveau de notre couple, au niveau de notre famille, ô Père éternel. Seigneur Jésus, il y a aussi, si j'ai bien compris, un défi aussi au niveau de la jeunesse dans cette église. Et je te prie, Père éternel, comme tu es en train de le faire, Seigneur Jésus, avec nous et dans beaucoup d'autres églises. Père éternel, tu es le même esprit, Seigneur Jésus. L'esprit qui agit là-bas, l'esprit qui agit ailleurs, est le même esprit qui est ici à Versoix. Et tu veux aussi agir, tu veux aussi te manifester, tu veux aussi toucher la jeune génération. Merci Seigneur Jésus pour les aînés. Merci pour ceux qui ont toujours été là et qui heureusement sont là parce qu'ils permettent à l'Église d'être encore là, d'exister encore. Merci pour les piliers dans l'Église, Seigneur Jésus, qui sont là. Père éternel, veille les bénir, veille les remplir de ton esprit, veille les renouveler, Seigneur Jésus, et que tu puisses déposer dans le cœur de chacun une vision renouvelée de ton œuvre, Père éternel. Merci de bénir Yann, Seigneur Jésus, qui est là en tant que jeune pasteur. Aide-le aussi, Père éternel, à marcher avec toi dans la vision qui est la tienne, dans les défis, Seigneur Jésus, qui sont devant lui. Soutiens-le, remplis-le au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de l'entourer aussi, comme c'est certainement le cas, d'hommes et de femmes qui seront des hommes loyaux à ses côtés, Seigneur Jésus, et qui pourront aussi le soutenir dans cette œuvre. Merci, Jésus. Tu as des grandes choses, Seigneur Jésus, pour cette Église. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as déjà fait par le passé et tout ce que tu veux encore faire aujourd'hui et demain. Te remettons, Seigneur Jésus, toutes choses entre tes mains maintenant. Là, je vous invite de rester dans cette attitude. Je laisse le président maintenant nous conduire dans la Sainte-Seine. Restons dans cette attitude où nous accueillons vraiment Jésus, le roi des rois.